J'écris des romans, je vais continuer à en écrire, et en même temps, je trouve ça un peu bête.
Je peux pas me relire. Je suis un douteur de grand fond. Et me relire, c'est ajouter au doute.
Je suis convaincu que la littérature, c'est d'abord un vice. C'est d'abord quelque chose d'extrêmement vicieux et pervers. D'une certaine manière, on écrit pour sortir de ce vice.
Le Carnet d'or, une émission d'Augustin Trapenard.
Pour moi, finir un livre, c'est une vue de l'esprit. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est que l'éditeur nous libère du livre et puis on peut s'arrêter de l'écrire.
Je me laisse faire par la langue, moi. La langue me mène, le rythme me mène. Il y a un creux quand même à l'intérieur de nous où il faut laisser passer la langue et c'est le seul tunnel en nous qui permettra de nous trouver.
Quand j'écris un livre, c'est pour fuir les autres, en quelque sorte. C'est pour me précipiter dans quelque chose de radicalement nouveau où je vais oublier ce qui a précédé. En revanche, c'est toujours une écriture sur la base de mes lectures. Où, par exemple, je vais relire certains mythes, certains textes comme Nerval. Tout simplement parce que si l'on admet que la littérature nous habite, est constitutive de notre réalité intime, de notre expérience intime, elle est exactement comme la réalité. Nos lectures sont notre réalité.
Bonjour et bienvenue dans le Carnet d'or, le magazine littéraire de France Culture. Chaque semaine, trois écrivains autour d'un thème, d'une actualité, d'un enjeu d'écriture pour tracer avec leur voix cette carte du paysage littéraire. Les voix qu'on vient d'entendre, ce sont celles de mes invités de samedi dernier, Philippe Hanoc, Guy Goffet et Pierre Jourde, qui passent leurs plumes de parole aux trois auteurs qui m'entourent aujourd'hui, trois romancières qui ont fait le pari de traduire un classique. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour.
Bonjour Julie Wolkenstein.
Bonjour.
Et bonjour Blandine Le Callais.
Bonjour.
Nancy Houston, la soirée de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, sept courtes nouvelles dont chacune est une prouesse narrative, selon vos propres mots, c'est leur première publication en français à partir de l'édition de Stella McNicol en 1973, des textes qui entourent la rédaction de cette œuvre majeure de la littérature moderniste qu'est Mrs. Dalloway. Julie Wolkenstein, Ethan Frome, ce roman aux allures de tragédie domestique et désespérée, signé Edith Wharton, que vous avez retraduit, alité, je crois, vous nous raconterez dans un geste d'humeur, loin des romans de Wharton qui dissèquent la bonne société new-yorkaise, c'est un texte rural qui frappe par sa simplicité, son traitement singulier aussi de la passion. Enfin, Blandine Le Callais, c'est à la fois la romancière et l'universitaire latiniste qui nous a rejoint aujourd'hui, spécialiste de la monstruosité dans l'Antiquité, qui s'est piqué de retraduire la Médée de Sénèque, sorte de tragédie domestique, là aussi où l'on suit les errances de cette femme répudiée, magicienne sur les bords, qui assassine ses deux enfants pour punir l'arrogance des hommes. Ah, Médée, cette incomparable héroïne. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là pour ce plateau du Carnet d'or qui fait suite à un plateau sur la réécriture la semaine dernière. Ce n'est pas un hasard de programmation, il n'y a pas de hasard dans le Carnet d'or. Après tout, qui sait, il y a peut-être de la réécriture dans le principe de traduction. Vous savez que dans cette émission, on commence toujours par quelques mots que je tire très malhonnêtement de l'un de vos textes, ou en l'occurrence ici de l'un des textes que vous avez traduits. Quelques mots, en l'occurrence, de Virginia Woolf, Nancy Houston, que je vais vous lire. Une créature sauvage, mais très contrôlée. Alors, c'est une description d'un personnage de la dernière nouvelle, un bilan, que vous reprenez dans votre préface pour parler de Virginia Woolf. Et je me suis demandé, Nancy Houston, si c'était pas aussi une image, peut-être, de la traduction. Une créature sauvage, mais très contrôlée. De l'expérience de la traduction de Virginia Woolf.
Oui, c'est une très très belle image, en tout cas. Et je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que ces nouvelles sont traduites en français. C'est la première fois qu'elles sont rassemblées.
Rassemblées, le recueil, oui.
Voilà. Et l'histoire de cette traduction est très, très émouvante pour moi parce que c'est une histoire presque idéale de passion aboutie. Je suis entrée dans une librairie d'occasion à Rome. Je suis tombée sur ce recueil qui s'appelait donc Mrs. Dalloway's Party. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Un livre de Virginia Woolf que je ne connais pas, c'est impossible. Et voilà, c'était un recueil de nouvelles écrites pendant et après Mrs. Dalloway, le célèbre roman, un des plus connus, un des plus aimés de Virginia Woolf. Et j'ai lu ça dans un état d'extase, évidemment, et j'en ai parlé à mon éditrice québécoise, Lise Bergevin, et elle m'a dit, mais c'est la perfection, c'est parfait pour les éditions des Allusifs, voilà. Et donc, je me suis trouvée en train de les traduire, c'était pas du tout dans mes projets. Et il se trouve que j'étais en Suisse au milieu des vaches.
C'est intéressant.
Et donc, chaque fois que j'ouvre et feuillette ce livre, j'entends les cloches de vaches qui m'accompagnaient 24 heures sur 24 pendant la traduction. Vous, on n'a pas l'habitude d'associer Virginia Woolf à des cloches de vaches.
Je vous le confirme. Mais l'expérience de la traduction de Virginia Woolf, Nancy Houston, il s'agit quand même de contrôler, je suppose, un texte essentiellement insoumis, en réalité difficile à soumettre.
C'est-à-dire que Virginia Woolf est géniale et son génie consiste entre autres à essayer de dire des choses indicibles. Ses phrases sont mystérieuses. Ses phrases sont souvent très longues et elles s'ouvrent pour laisser passer des choses effectivement sauvage. Et comme nous savons toutes les trois ici et tous ceux qui se sont aventurés dans le domaine de la traduction, l'unité de la traduction, c'est la phrase. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas le paragraphe ou la page, bien sûr, c'est la phrase. Et pour un écrivain ou une écrivaine, essayer de se glisser dans la syntaxe de quelqu'un d'autre, c'est presque comme un acte d'amour.
Évidemment, Blandine Le Calais, je me tourne vers vous parce qu'il s'il est un personnage sauvage et pour le coup très difficilement contrôlable, voilà. D'abord dans sa langue, c'est bien m'aider. Elle pose un problème de traduction en elle-même.
C'est le principe même de traduire un texte antique qui pose, je pense, un problème parce que c'est une langue morte. C'est une langue dont on ne sait même pas comment elle était parlée, prononcée. Donc je pense qu'il y a, au-delà de la difficulté même de transposer un texte d'une langue dans une autre, il y a cette espèce de mystère, de brouillard qui entoure le texte originel, qu'on ne pourra jamais dissiper. Mais en même temps, il y a une espèce de fidélité à laquelle on est contrainte malgré tout. Donc il y a une espèce de paradoxe intrinsèque à la traduction d'une langue morte. Il faut essayer de dissiper un brouillard indissipable, en quelque sorte.
C'est-à-dire aussi pour vous, dans le projet de traduction, de rendre un texte plus accessible ici, en l'occurrence ?
Évidemment, de rendre un texte plus accessible. Alors, en plus, il y a aussi l'idée qu'on a un texte très ancien. Donc, on a derrière nous des générations et des générations de traductions, des dizaines de traductions au fil des siècles qui se sont périmés, qui se sont démodés parce que la langue bouge aussi. Donc il y a aussi le fait qu'on s'inscrit dans une histoire séculaire qui donne une forme de solennité un peu paralysante à l'entreprise et en même temps qui rend très modeste parce qu'on sait qu'on s'inscrit dans une chaîne, que le travail qu'on va produire va peut-être éclairer le texte pour quelques dizaines d'années, et puis qu'un jour il sera périmé et qu'on sera remplacé par quelqu'un d'autre.
Surtout quand il s'agit de Médée, qui est un monstre et un texte monstre de Sénèque.
Alors, ce qui est sûr, c'est que... Alors, je pense qu'il y a tellement d'autres monstres chez Sénèque que Médée n'a peut-être pas une spécificité particulière par rapport aux autres monstres de Sénèque, mais c'est vrai que c'est une langue extrêmement fracassée, heurtée, chaotique, et en même temps très riche et très foisonnante. Donc c'est difficile, oui.
À propos de difficulté, Julie Wolkenstein, vous qui avez traduit le Gatsby de Fitzgerald, notamment avant ce roman d'Edith Wharton, c'est toujours le cas quand on traduit, c'est une prise de risque, c'est un défi, c'est un danger?
Oui, d'abord moi je suis tout à fait d'accord avec Blandine, je suis aussi très consciente du caractère périssable des textes que je traduis, même s'ils sont beaucoup moins anciens, que ce soit Fitzgerald ou Wharton, il existait déjà les traductions de ces textes, et j'ai la même humilité, c'est-à-dire que j'ai envie de faire découvrir ou redécouvrir ces textes à un public contemporain, mais je sais très bien que dans 20, 30, 40 ans, mes traductions se démoderont à leur tour. Donc il y a ce risque-là qui est un risque parfaitement assuré. Assumer et accepter.
Vous vous posez quand même la question de la légitimité ?
Non, pas tant que ça. Pour moi, la légitimité, dans les deux ou trois livres que j'ai traduits, elle était entièrement du côté de la passion que j'éprouvais pour le texte. Je me sentais qualifiée pour le traduire parce que je l'aimais et parce que j'avais l'impression de l'entendre et de le comprendre à ma manière, hein, avec quelque chose de forcément subjectif, mais j'assume aussi la subjectivité dans la traduction.
C'est une question qui se pose quand même, Nancy Houston, surtout quand on s'attaque à Virginia Woolf, par exemple, la légitimité, la peur aussi de se confronter à un texte pareil et de l'assumer.
On ne peut pas être à la hauteur. On ne peut pas. Mais il faut essayer parce qu'on a envie de que d'autres partagent le bonheur du texte qu'on a lu. Et en tant qu'auteur, toutes les trois, je pense qu'on connaît cette satisfaction qui est de ne pas avoir le trac de la page blanche du tout, l'angoisse de sa propre création, et pourtant d'avoir, après avoir traduit passablement bien une page ou une nouvelle, de sentir presque la même satisfaction que lorsqu'on a bien écrit soi-même. Et donc, c'est très bizarre de ne pas voir son nom dans les comptes rendus.
Pour vous, c'était un défi de lectrice, Nancy Houston, ou un défi d'écrivain ?
Non, c'est un défi d'écrivain, tout à fait un défi d'écrivain. Je pense que Virginia Woolf est souvent perçue comme un auteur un petit peu difficile, un petit peu, comment dire, une grande dame, une grande britannique, peut-être un peu snob, un peu comme il faut, etc. Or, il y a ce côté sauvage chez elle. On sait qu'elle a été dépressive. Je pense que l'écriture pour elle était presque toujours du côté de maniaco plutôt que dépressif. elle était aussi quelqu'un capable d'une intense extase. Et c'est ça qui affleure dans plusieurs de ses nouvelles, ces balancements entre des moments de perte, de désolation, où le monde semble perdre ses couleurs et perdre tout son sens, et la capacité, grâce au langage, grâce à la pensée, grâce à la perception, de tisser ensemble les choses en quelque chose qui tienne et qui la soutienne. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans le langage.
Blandine Le Callais, pour vous, c'est la romancière ou l'universitaire qui a traduit la Médée de Sénèque ?
Je ne fais pas vraiment de différence entre les deux. C'est-à-dire que je pense très profondément que c'est un amour tout romanesque pour les textes antiques qui m'a mené à ma formation d'universitaire. Donc il n'y a pas de rupture. Et c'est donc évidemment autant la latiniste qui connaît bien les règles de la langue qu'elle traduit que la romancière qui était à l'œuvre. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Nancy sur le fait que, effectivement, ce n'est pas notre nom d'auteur qui est sur la couverture. Et il y a une forme de confort à se dire, eh bien, je vais quand même produire un texte où il y a de moi, mais je me laisse porter par le génie, parce que je crois qu'on a traduit toutes les trois des auteurs qui sont géniaux. Je me laisse porter par le génie de Sénèque, et je suis emportée par son génie, et ma traduction va en quelque sorte bénéficier de toute cette puissance originelle du texte.
Quelque part, c'est une expérience de lecture prolongée. Quand on lit un texte, on se l'approprie toujours un petit peu.
Oui.
Quand on traduit.
Quand on traduit, on pense au plaisir de lecture. Il faut que une traduction réussisse, c'est une traduction dont on ne se rend pas compte qu'elle est une traduction. Donc qui procure un plaisir sans aspérité et une espèce de fluidité, comme si on lisait le texte dans sa langue originelle.
Vous êtes d'accord, Julie Wolkenstein ?
Oui et non, moi je suis. J'aime bien qu'on entende aussi que il s'agit d'une langue étrangère. Même quand je lis moi-même des traductions, je suis sensible à ça, à ce très léger décalage qui fait qu'on entend le texte en anglais, en l'occurrence, derrière le français, même si je vise aussi la fluidité et le confort de lecture. Et c'est vrai que c'est une expérience, la traduction, enfin celle que j'en ai, cette expérience que j'en ai, qui, moi, me permet de faire plaisir à toutes les facettes, enfin tout ce que j'aime dans la littérature est contenté par l'activité de traduction, c'est-à-dire que j'ai un plaisir d'abord purement émotionnel, qui est un plaisir de lectrice, enfin le fait d'être captivée par un texte, d'être prise, d'être émue, parce que même un texte sur lequel on travaille, retravaille, etc., l'intensité pour moi est intacte. Il y a un plaisir d'universitaire, si on veut, disons, de spécialiste ou d'analyste de comment s'est fabriqué un roman, comment ça marche, qui est aussi pleinement satisfait parce que là on entre dans le mécanisme du récit mieux que n'importe comment, dans n'importe quelle autre situation. Et puis il y a quand même quelque chose d'autre qui est satisfait, qui est quelque chose de créatif malgré tout. C'est pas uniquement en effet une activité de lecture, il y a une part d'écriture. Et quand Nancy disait l'angoisse de la page blanche, c'est vrai que pour un romancier, une romancière en l'occurrence, savoir qu'on va se mettre à sa table et que le soir, si tout va bien, en effet, les choses auront progressé, c'est un confort et c'est extraordinaire.
Ça. À sa table ou dans son lit, Julie Wolkenstein, vous me racontez l'histoire de cette traduction, parce que je crois qu'elle n'est pas banale.
En l'occurrence, je ne pouvais même pas rester assise devant une table, je m'étais cassé la jambe, expérience que je ne souhaite pas à mes pires ennemis, qui rendent extrêmement dépendants et handicapés, et qui est un peu une peine de prison, parce qu'on ne peut donc pas faire grand-chose. Moi, ça a duré 4 mois, et très vite, je me suis d'ailleurs mise dans la peau d'une prisonnière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour occuper ce temps, sachant que je ne pouvais donc même pas être assise à une table. Alors, plutôt que de bouffer des séries américaines à longueur de journée, ce que j'aurais pu faire aussi bien, ou de relire Guerre et Paix, ce que j'ai envisagé aussi à un moment, je me suis dit, au fond, Ethan Frome, que j'avais lu peu de temps auparavant dans la traduction de Pierre Léris, et dont la traduction m'avait un peu dérangée. Je me dis, bon, pourquoi est-ce que je ne reprendrais pas ce texte? Et ce qui était amusant, c'est que je m'étais donc en effet alité avec... Ça, on peut le faire alité, une traduction, un portable sur les genoux, tout est chargé dans l'ordinateur, le dictionnaire compris, c'est très simple. On a vraiment besoin de très
Comment
peu de matériel.
Comment démystifier cet exercice?
Vraiment, ça se demande très très peu de matériel, mais surtout, ce qui était étonnant, c'est que j'avais, non pas totalement oublié, mais occulté ce fait majeur qu'on apprend dès le second paragraphe du roman, que le héros de ce récit a lui-même été victime d'un accident, est estropié. Et là, quand je suis tombée sur ce deuxième paragraphe, je me suis dit, ah bah oui, évidemment. Et en plus, il est estropié du côté droit, ce qui était mon cas aussi. C'est-à-dire que, et là, je me suis dit, c'est un signe du destin, il faut que je continue. C'était ce texte-là qu'il faut que je travaille.
Est-ce que ces traductions ont empiété sur votre travail d'écrivain, ne serait-ce que dans le temps que vous y avez passé, Nancy Houston?
Moi, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, la traduction, c'est quelque chose de très sympathique pour continuer de se sentir en contact avec la littérature dans son soi profond quand on n'écrit pas. Oui, je le vis comme ça. Il faut dire que c'est frustrant aussi parce que autant on peut vraiment être totalement satisfaite d'une page qu'on a écrite, autant une page qu'on a traduite, on se sent toujours capable de l'améliorer. Je pense qu'on doit être payé à peu près 2 centimes de l'heure, en fait, quand on pense au temps.
On ne fait pas ça pour l'argent.
Oui.
Non.
Après, je me suis dit, mais c'est juste hallucinant le temps que j'ai mis à faire ça. Et puis, je les ai lus et relus à voix haute à des amis pour voir si ça passait. Parce que c'est très drôle, c'est très allègre, c'est délicieux, le style de Virginia Woolf dans ses nouvelles. Et donc, on a envie que les gens comprennent aussi, saisissent tout l'humour.
Alors, justement, on va s'y plonger, Nancy Houston, dans ses nouvelles de Virginia Woolf, La soirée de Mrs. Dalloway, que vous avez traduit pour la maison Les Alusies. Vous avez choisi en interlude quelques notes du quatuor à cordes numéro 5 de Mozart, interprété ici par le quatuor Talige. Vous écoutez France Culture, vive la littérature. Rien au monde n'est plus étrange que les rapports humains, se dit-elle, en raison de leur mutation, de leur incroyable irrationalité, car son aversion pour l'homme venait de se muer en rien de moins qu'un amour intense et euphorisant. Mais elle rejeta le mot « amour » dès qu'il affleura, songeant à nouveau comme l'esprit est insondable, car elle dispose de si peu de mots pour toutes ces perceptions étonnantes, toutes ces alternances entre douleur et plaisir. Et quel nom donner à ce qu'elle éprouvait maintenant, que toute affection lui avait été retirée, que Serle avait disparu, et qu'ils se trouvaient tous deux dans la nécessité immédiate de se cacher cet aspect de la nature humaine, si désolant, si dégradant que tout le monde s'évertuait à l'enterrer, cette retraite, cette trahison de la confiance, et, cherchant une forme d'enterrement acceptable, reconnue, décente, elle dit « Naturellement, ils auront beau essayer, ils n'arriveront pas à nous gâcher Canterbury. » Une page de La soirée de Mrs. Dalloway, signée Virginia Woolf, que vous avez traduite, Nancy Houston. Une page de cette nouvelle, la cinquième, qui s'intitule Ensemble et séparés. Et cette phrase, si peu de mots pour toutes ces perceptions étonnantes, toutes ces alternances entre douleur et plaisir. C'est intéressant, évidemment, au regard d'une traduction, d'autant qu'il y a encore moins de mots en français, je crois, qu'en anglais. La langue française est moins riche, non ?
pour décrire les émotions, des choses comme ça, oui. C'est une nouvelle très drôle d'une rencontre entre un homme et une femme dans une soirée, et un instant, ils pensent pouvoir tomber amoureux. Il y a toute cette possibilité qui s'ouvre et qui les fait trembler. Ils ne sont pas du tout jeunes. Et est-ce que ça va être ça? Et donc, leur cerveau embarque dans le récit « je vais tomber amoureux ». Et ensuite, une phrase est prononcée qui est juste rédhibitoire et ils se rendent compte au même instant et toute l'ouverture est renfermée et on décide que c'est l'horreur, c'est rien du tout. Moi, je suis très, très influencée par Virginia Woolf. Je me suis rendue compte aussi en la traduisant parce qu'elle essaye, c'est extrêmement difficile de rendre compte d'une conversation et surtout une conversation à plusieurs dans une soirée. C'est peut-être un des exercices les plus cotons pour n'importe quel romancier, romancière. Et elle ne se contente pas de bien rendre les conversations mondaines, mais elle ouvre des tunnels entre chaque réplique. Et nous avons donc le loisir, la possibilité de pénétrer dans les cerveaux des uns et des autres et dans leur passé et dans leurs opinions politiques et dans leurs peurs et dans leurs rêves et de ressortir et on entend la réplique suivante alors que peut-être 4 pages se sont engouffrées dans cette parenthèse. Et c'est vraiment assez jouissif à la fois de le lire, de le traduire, de l'écrire aussi.
Ce que vous décrivez, c'est donc ce flux de conscience avec ses détours, ses circonvolutions, ses impasses aussi. Qu'est-ce qui résiste dans la langue et dans l'expérience de la traduction pour vous qu'est-ce qui est dur en fait?
Oui, qu'est-ce qui est difficile? Mais bien sûr, c'est le rythme qui est le plus important. Il ne faut pas que le lecteur se perde. Le français est très, très rétif au gérondif. Voilà, c'est s'il y a un mot que je dois prononcer aujourd'hui, c'est gérondif. Les ing en anglais, elle adore ces as he was doing, thinking, etc. Et on ne peut pas faire ça en français. Il faut trouver des paraphrases. Il faut gracieusement et pas trop longuement essayer de dire que les gens sont en train de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas mettre marchant, chantant, allant, etc., encore et encore, comme elle fait avec...
Il y a des moments où vous avez perdu courage, Nancy Houston, il y a des moments où vous vous dites « non, je ne peux pas, c'est pas possible ».
On s'arrache gentiment les cheveux, mais ça vaut le coup. Elle me soutenait, en fait. C'était, je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que ce travail est un défi qui nous fait plaisir de relever.
La soirée de Mrs. Dalloway, cette nouvelle donc autour du roman que Woolf publie en 1925, qu'elle écrit avant pour l'une d'entre elles, une de ses nouvelles, pendant l'écriture ou après pour les autres, cette nouvelle qui sont donc autant de variations, de préludes, de pas de côté, autour de cette fameuse soirée de Mrs. Dalloway. Vous parlez, Nancy Houston, dans votre introduction de conscience de soirée. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais Virginia Woolf était une sorte de précurseur véritablement l'approche presque neurologique de l'être humain. Comprendre que nous sommes dans des sortes de mentalités différentes à différents moments de la journée, que le soi n'est pas une chose unie et harmonieuse et cohérente. Donc elle se disait, il y a des consciences différentes selon la personne à qui on parle ou la situation sociale dans laquelle on se trouve. Et j'aimerais travailler sur la conscience de soi. Or, la soirée pour Virginia Woolf était un phénomène source d'ambivalence extrême parce qu'elle était très tentée par la mondanité, elle était assez snob. Elle avait d'ailleurs, j'ai entendu des enregistrements, une voix assez snob et difficile à supporter pour une Canadienne parce que l'accent aristo-anglais, ça grince. Hein, c'est comme pour vous, le 16e arrondissement.
Ah, pas pour moi.
Non, pardon, on est dans le 16e, je m'étais.
Ah oui, d'accord.
Mais en même temps, elle avait un côté extrêmement fragile et farouche et sauvage et libre qui détestait la contrainte d'avoir à s'habiller, d'avoir à être polie à des gens qu'elle n'estimait pas. Et donc, elle était tiraillée entre ces deux choses. La tentation de vouloir paraître et briller et être admirée en public. Et puis, un côté vraiment très, très antisocial et très sauvage.
Est-ce que la lecture de ces textes, Nancy Houston, ça a altéré du coup votre perception du roman Mrs. Dalloway? Est-ce que ça a changé votre façon de le lire?
Disons que ça a intensifié mon admiration pour ce roman. Ce qui manque ici, en fait, par rapport au roman, c'est le personnage de Septimus Warren Smith, qui est donc l'incarnation de la folie que subissait elle-même Virginia Woolf pendant ces mêmes années. Elle était tenue à l'écart de Londres. On estimait qu'elle avait besoin de repos, beaucoup de repos. Léonard, son mari, lui servait quasiment d'infirmier, la protégeait. On le voit bien dans le film The Hours,
de Stephen Daldry,
c'est ça, qui montre cette période de la vie où elle travaille.
Adapté d'un roman de Michael Cunningham, d'abord.
Merci de mentionner les auteurs, c'est ça, il ne faut pas oublier. Je pense que la folie de Septimus Warren Smith est la grande découverte du roman. Elle a réussi à l'intégrer comme une sorte de contre-temps dans le roman. Ici, c'est absent, mais c'est pris en charge par des petites flamèches de folie qui arrivent ici et là. Je vais juste vous en lire un minuscule paragraphe. C'est le dernier paragraphe du livre. À cet instant, quelque part au fond d'une ruelle ou d'un pub, résonna la voix habituelle. Effrayante, asexuée, incohérente, un hurlement, un cri. Surpris, l'oiseau veuf qu'elle appelait son âme s'envola et se mit à décrire des cercles de plus en plus larges, jusqu'à ce qu'il fût parti aussi loin qu'un corbeau effarouché qui s'envole dans les airs parce qu'on lui a lancé un caillou. Et c'est très fou de terminer une histoire comme ça, notamment à cause de la présence de deux oiseaux différents, coup sur coup. Il y a un oiseau qui ressemble à un corbeau. Il y a un oiseau qui s'envole, qui ressemble à un corbeau qui s'envole. Et c'est ça l'envol de son âme, le cri de folie de son âme. C'est ça qui lui donne son génie et c'est ça qui menace à tout instant sa vie.
Comment vous avez préparé, Nancy Huston, cette traduction? Est-ce que vous avez relu ce texte à la lumière de tout un paratexte woolfien? Est-ce que vous avez relu des textes qu'elle avait écrits auparavant et après aussi? Parce que vous les citez dans votre introduction.
Oui,
y compris des biographies de Virginia Woolf.
Je me suis un petit peu re-renseignée. J'ai lu tout Virginia Woolf il y a une vingtaine d'années quand je travaillais sur Journal de la Création. En fait, j'avais fait ici à France Culture une émission sur Virginia et Léonard dans une série qui s'appelait Scène littéraire, scène de ménage, où on a parlé aussi du couple Fitzgerald que connaît bien Julie Wolkenstein. Et ensuite, pour écrire ça, je me suis repenchée un peu sur ces journaux de ces années-là. Et je me suis rendue compte à quel point la folie était proche, à quel point elle était jalouse de Joyce, par exemple. Elle a entendu parler d'Ulysse et elle s'est dit « Ah zut, il va faire ce que je veux faire il va le faire mieux que moi ». Cette histoire de monologue intérieur, elle était très, très... Oui, elle était susceptible d'émotions comme ça, la jalousie littéraire, tout à fait.
Est-ce que traduire, c'est se mettre aussi un petit peu dans la peau de l'écrivain? C'est-à-dire que plus encore qu'un exercice de ventriloquie, ça pourrait être une sorte d'immersion quasi physique?
C'est intéressant, quand j'écrivais sur Virginia Woolf, j'étais plus susceptible à ces symptômes que quand je me suis mise dans sa peau pour la traduire. Non, pas spécialement. Je me sentais aimante. Je crois que j'ai beaucoup appris sur ses faiblesses. C'est quelqu'un... Je pense que s'il y a un auteur qui m'accompagne en profondeur à tout égard et depuis toujours, c'est Virginia Woolf. C'est-à-dire que je connais l'histoire du XXe siècle par son regard. Je sais en quelle année on a inventé les douches. Je sais en quelle année elle s'est mise à conduire une automobile en se disant « Mon Dieu, je roule à 15 km heure, c'est dingue !» Et l'histoire de la guerre d'Espagne, l'histoire de la montée du nazisme, enfin, tout ça, je le vis incroyablement à travers son journal.
L'histoire du féminisme aussi, parce que vous notez en introduction ce féminisme larvé, cette comédie du machisme et l'actualité du droit de vote lorsque Woolf écrit ses textes, je crois. Je pense aussi dans le livre à ce passage où Clarissa rêve de parler politique comme un homme. La parole féminine, je suppose que ça a intéressé la romancière et l'essayiste que vous êtes, Nancy Huston.
Absolument, et ce qui est très sympathique aussi, c'est l'humour, là encore, parce que Virginia Woolf est drôle, extrêmement drôle. Elle est drôle même dans ses essais féministes, genre Trois Guinées ou Une chambre à soie. Mais ici, dans la nouvelle, il y a plusieurs nouvelles qui sont liées à ces thèmes de féminisme, notamment Présentation, où on voit une jeune femme qui ressemble pas mal à Virginia, qui vient d'écrire un essai sur Swift, l'auteur de Gulliver, et qui essaie de s'accrocher à ça pendant dans cette première soirée mondaine de sa vie. Elle sait, ça, c'est solide. Elle sait qui elle est parce qu'elle a écrit sur Swift. Et dès qu'elle voit un jeune homme qui est en pleine possession de ses forces, de son discours, son Oxford, etc., elle est totalement déstabilisée. Et elle regarde autour d'elle. Elle voit tous les bâtiments de Westminster. Enfin, tout ça a été construit par les hommes. Shakespeare, c'est un homme. Et elle devient juste une petite femme qui a envie qu'on lui ramasse le mouchoir qui tombe par terre.
Blandine Le Callais, je me tourne vers vous. Ça a forcément dû compter aussi un petit peu le féminin à la lecture de la pièce de Médée.
Eh bien, évidemment, puisque vraiment, le personnage de Médée, c'est le personnage de la femme déchaînée dans tout ce qu'elle pouvait avoir d'effrayant pour l'Antiquité, hein, la femme qui revendique ses désirs, qui revendique le droit de garde de ses enfants en cas de séparation, qui revendique une sexualité et le pouvoir. Donc, évidemment, c'est le personnage le plus scandaleux de la littérature antique, le personnage féminin le plus scandaleux.
Julie Wolkenstein, c'est un enjeu beaucoup moins évident dans Heath and Frome, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est un roman écrit par une femme avec un vrai traitement du genre, de la masculinité, de la féminité. Ça vous intéresse, vous aussi, en tant que romancière ?
Oui, je pense qu'Edith Wharton, c'est vraiment, elle est aux antipodes de Virginia Woolf pour cela, parce que je ne crois pas qu'elle ait jamais, je ne suis pas spécialiste, hein, mais qu'elle ait jamais beaucoup revendiqué une égalité, enfin, c'était pas un thème, mais il se trouve que c'est la première femme qui a obtenu le prix Pulitzer, que c'était une femme qui vendait énormément de livres, qui était un auteur à succès, qui avait une passion pour l'automobile, alors elle a beaucoup plus de 15 km/h, et qui, d'une certaine manière, a mené une vie, ça a mis du temps, c'est venu tard, mais enfin, elle a fini par divorcer, par s'exiler en Europe et par avoir une vie relativement indépendante, alors que lui permettait aussi une très grande fortune et sans doute un équilibre psychique beaucoup plus solide que celui de Woolf. Donc, au fond, par sa vie, elle a manifesté une forme de modernité ou d'indépendance par rapport aux femmes de son époque, surtout les femmes du milieu qu'elle décrit de cette Amérique, qu'elles soient fortunées ou, comme dans le cas d'Ethan Frome, extrêmement misérables.
Ethan Frome, Julie Wolkenstein, ce roman d'Edith Wharton que vous avez retraduit, qui paraît chez POL, on en parle juste après cet extrait de Let It Snow par Frank Sinatra dans Le Carnet d'Or.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm.
Ils franchirent le portail et marchèrent à l'ombre du tertre où, ceintes d'une petite barrière, les tombes de Frome, des guingois, formant des angles bizarres, affleuraient dans la neige. Ethan les regarda avec curiosité. Depuis des années, leur présence impassible narguait son impatience, sa soif de changement et de liberté. « Nous ne sommes jamais partis, comment le pourrais-tu ?» Telle était l'épitaphe que semblaient afficher toutes ces stèles. Et chaque fois qu'ils franchissaient ce portail, dans un sens ou dans l'autre, ils songeaient en frissonnant « Je n'ai plus qu'à continuer de vivre ici jusqu'à ce qu'il soit l'heure de les rejoindre. » Mais à présent, tout désir de changement l'avait quitté, et la vue du petit enclos lui inspira un sentiment réconfortant de continuité et de stabilité. « Je t'assure qu'on ne te laissera jamais partir, Matt, » murmura-t-il, comme si ces mots eux-mêmes avaient jadis connu l'amour et conspiré avec lui pour la retenir. Et longeant les tombes presque à les frôler, il songeait « Nous continuerons de vivre ici ensemble, et un jour, on en se livrera là, à mes côtés. » Il laissa cette vision s'emparer de lui tandis qu'il gravissait la colline en direction de la maison. Il n'était jamais si heureux avec elle que lorsqu'il s'abandonnait à ses rêveries. À mi-pente, Matty buta contre un obstacle invisible et s'agrippa à sa manche pour ne pas tomber. L'onde de chaleur qui le parcourut lui sembla prolonger sa vision. Pour la première fois, il l'enlaça et elle se laissa faire. Ils avancèrent comme soulevés par les flots d'une rivière en plein été. Une page de Ethan Frome, d'Edith Wharton, une page de votre traduction, Julie Wolkenstein, et on voit surgir dans cette ballade inquiète et menaçante les signes, les présages de tout le roman peut-être. La tragédie, il me semble, peut-être que vous allez me contredire, c'est que les personnages ne les voient pas, ces signes.
C'est-à-dire, ce qui est très clair, très clair quand on connaît la fin du roman dans le passage que vous avez lu, c'est que même cet avenir-là, c'est-à-dire le paisible ensevelissement sous terre et la tombe, va être refusé au héros de cette tragédie. C'est ce qu'on peut imaginer de pire comme dénouement, pire que la mort qui va leur arriver. Et ça, on ne le voit qu'à la seconde lecture, c'est un signe, mais un signe, une promesse qui ne sera même pas tenue par le texte.
C'est vraiment de personnages quand même, Ethan Frome, des personnages qui vous ont saisi, vous, en tant que lectrice, dans leur faille peut-être.
Oui, c'est un roman de personnages, c'est un roman aussi où on découvre quelque chose qui existe chez Wharton, mais pas autant dans ses autres textes sans doute. C'est un roman aussi sur la nature, il y a une sorte de... On le sent d'ailleurs dans le passage que vous avez lu, mais c'est très présent dans le texte, c'est-à-dire que ça se passe dans ce coin reculé du Massachusetts, dans les montagnes, et le sentiment de communion avec la nature qu'éprouve le personnage masculin, le héros, Ethan Frome, c'est quelque chose d'omniprésent dans le texte et chez lui ça se double d'une curiosité intellectuelle. C'est quelqu'un qui a dû renoncer à tout pour reprendre la ferme familiale, qui est une ferme absolument désolée, mais il a fait un tout petit peu d'études, il s'est intéressé à l'astronomie, à la géologie, et donc il y a une double fascination pour cette nature environnante, ce paysage qui est à la fois esthétique et intellectuel.
Vous parlez de la singularité de ce texte dans l'œuvre d'Edith Wharton. C'était intéressant pour vous aussi d'intervenir sur un texte peut-être plus singulier, plus différent, plus facile peut-être ?
Oui, plus facile. Alors plus facile que Fitzgerald, certainement, plus facile que Woolf aussi, même s'il y a toujours une exigence, il s'agit de rendre justice au texte original, de ne pas le trahir, en tout cas de ne pas trahir la vision qu'on en a soi et d'essayer de la transmettre au mieux. Donc c'est pas un texte horriblement difficile, même s'il y a toujours des obstacles qui se présentent. Et c'est un texte singulier, non seulement dans l'œuvre de Wharton, c'est vrai que par rapport à l'image qu'on a d'elle en général, elle qui était précisément une vraie mondaine, qui n'avait rien de cette ambivalence woolfienne à l'égard des soirées, qui était très à l'aise chez les grands couturiers et dans les soirées du Faubourg Saint-Germain, qui croyait pouvoir séduire James la première fois qu'elle l'a rencontré parce qu'elle portait un nouveau chapeau extrêmement à la mode. Enfin, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup décrit, et souvent d'ailleurs très méchamment, très drôlement, avec beaucoup d'ironie, les heureux du monde et ce milieu très fortuné, qu'il soit américain ou d'américains exilés en Europe. Alors, singulier dans son œuvre, oui, Ethan Frome, dans la mesure où on se trouve cette fois chez les gens les plus déshérités qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire ces petites communautés extrêmement isolées des montagnes du Massachusetts. Mais il me semble que c'est un texte singulier tout court. Moi, je l'ai lu assez tardivement, mais j'avais autour de moi des gens qui étaient des vrais fans de ce roman, comme d'une espèce d'ovni, enfin de texte parfaitement sans équivalent. Alors, à cause de la grande brutalité aussi de ce qui y est raconté, qui raconte au fond la même chose que dans les autres romans de Wharton. Les thèmes sont très comparables, c'est-à-dire une histoire d'amour impossible et rendue impossible à la fois par les convenances sociales qui sont tout aussi rigoureuses dans cette petite communauté villageoise que dans les grands salons de Boston ou de New York, par un scrupule moral, et puis aussi peut-être par quelque chose qui caractérise ces personnages dans leur ensemble, qui est une forme d'impuissance, d'incapacité à braver justement toutes ces contraintes.
Ethan Frome, je le disais en introduction, je lis pour ma part comme une tragédie domestique, désespérée. Le narrateur de ce roman est envoyé en mission en Nouvelle-Angleterre et il se fait compter le destin de cet homme brisé d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Ethan Frome. Il s'est passé quelque chose il y a plus de 20 ans, quand Ethan était marié à une sorte de mégère et que cette dernière a fait venir une cousine pour les aider. C'est l'histoire effectivement d'un amour avorté. Qu'est-ce qui manquait, Julie Wolkenstein, à la traduction de Pierre Léris, à qui on doit notamment une très belle traduction d'Eo de Hurlevent, qui est un grand traducteur de l'anglais? Qu'est-ce qui manquait pour vous?
Écoutez, quand je l'ai lu, je n'avais pas le texte de Wharton, je l'ai découvert comme ça. Je trouvais étrange que justement ce sujet très, le dit elle-même, un sujet très brut, très sommaire, soit traité dans la traduction que je lisais de manière un peu élégante, un peu sophistiquée. Je pouvais pas vérifier, en plus j'étais très loin de chez moi, je pouvais pas vérifier qu'il y avait une distorsion par rapport au texte anglais. J'étais gênée par par des termes un peu en, vous voyez, un peu ampoulé, le fait de traduire, ça je l'ai compris après, enfin je l'ai compris d'ailleurs en lisant le Léris, il n'y avait pas de notes, mais le fait de traduire pasteur par ministre, qui pour un lecteur contemporain me paraît voilà, quelque chose d'un peu étrange. Et alors, j'ai eu la confirmation quand je me suis reportée au texte de Wharton qu'il y avait chez elle une simplicité, une économie de moyens, une grande efficacité d'ailleurs, mais que le texte de Léris, à mon sens, ne rendait pas. Il faut savoir que Wharton a elle-même proposé le texte dans une version française en 1912, juste après la version américaine. Ça, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, qui s'appelait Sous la neige. C'est la seule fois où elle a elle-même écrit et traduit son propre texte en français. Et je vous vois faire des mines, mais personne ne le connaît parce qu'il ne mérite pas de l'être. Hein. Je l'ai regardé. Bon, elle parlait un très bon français, mais ce qu'elle écrit ressemble à un roman français convenable et bourgeois du début du XXe. Ça n'a en gros aucun intérêt. L'histoire reste la même, mais le style est très éloigné de la force qui est celle du texte anglais.
Cela dit, par ces résurgences un peu romantiques, justement, vous parliez de nature, mais aussi peut-être, et c'est très important, d'indicible, de tragique, de signe qu'on ne lit pas. Moi, en lisant ce roman, je me suis dit qu'il appelait, qu'il demandait, qu'il exigeait même une sorte de réponse de la part du lecteur. Parce qu'il est toujours question, sans cesse, d'un problème d'interprétation, d'un problème de communication dans ce livre.
Oui, elle le dit dans la préface qu'elle a écrite, qui est un très beau texte. Elle dit qu'au fond, l'enjeu consistait à donner la parole à des personnages qui ne l'avaient pas. Quand vous avez demandé de choisir un morceau de musique pour cette émission, j'étais bien embêtée parce que je crois que ce qui caractérise le climat de ce texte, je ne parle pas seulement du froid, de la neige, etc., c'est le silence. Ce sont des personnages qui ont très peu de mots à leur disposition et elle les compare dans sa préface à des affleurements de granit. Elle dit qu'ils sont à peine moins enterrés et plus éloquents que des roches granitiques. Et donc son défi, enfin le défi qui est celui du narrateur, qui est un personnage extérieur, c'est d'arriver à reconstituer la vie intérieure de personnages qui ne s'autorisent pas à avoir une vie intérieure, qui ne comprennent au début du roman même pas bien ce qui leur arrive, à quel point ils sont amoureux, etc. Et à donner une voix à des personnages qui n'en ont pas. Et il y a pour moi un des moments, parce que c'est un texte très émouvant, hein, c'est en effet une tragédie, pour moi un des plus beaux passages du texte, c'est à la fin, les deux personnages vont faire une dernière promenade près d'un étang où ils ont de très bons souvenirs, qui s'appelle évidemment l'étang de l'ombre, hein, tout ça est toujours en effet toujours très noir. Et là, le texte dit en substance que Ethan aurait voulu dire à Matty que ses cheveux lui rappelaient la mousse dans les sous-bois, mais on ne lui avait jamais appris à dire ces mots-là. Et donc le narrateur se substitue ici à l'amoureux et lui donne les mots qu'il ne possède pas. Et tout le texte est comme ça, il s'agit c'est déjà une traduction finalement, le travail de Wharton.
Oui,
traduire les sentiments de personnages qui ne se les avouent pas, qui n'ont d'ailleurs ni le temps, ni la permission, ni l'occasion de s'exprimer ce qu'ils ressentent.
Et à vous entendre, On entend précisément la dimension romantique de ce texte également. Et si c'était aussi votre côté midinette, Julie Wolkenstein, qui vous avait poussé à traduire ce texte, Ethan Frome?
Alors, j'admets tout à fait être une midinette, mais je pense tout de même que par rapport à Fitzgerald, dont j'ai déjà traduit deux romans, le second n'est pas encore, ma seconde traduction n'est pas encore paru, mais que j'ai donc pas mal fréquenté aussi comme lectrice et en le traduisant, je pense que Fitzgerald est beaucoup plus midinette que Wharton. Je pense que Wharton, oui, ah non, vraiment,
sans doute, oui.
C'est une vraie fleur bleue, Fitzgerald. Alors que Wharton, il y a une sorte de pessimisme absolu dans ses romans. Alors même si les personnages sont moins, disons, des épaves que ceux de Fitzgerald, hein, ils se tiennent justement tous jusqu'au bout, face à tout, mais c'est d'une noirceur absolue, pas seulement Ethan Frome. Ethan Frome va très loin dans la noirceur, mais le temps de l'innocence, ce sont que des histoires de vie gâchée, et je pense qu'elle avait une grande lucidité elle-même, une grande maturité en ce sens, et qu'elle n'était pas une midinette, en tout cas pas à l'âge auquel elle s'est mise à écrire des romans.
Blandine, ne calait pas de côté midinette chez vous en traduisant Médée, ou alors c'est très grave?
Oui, c'est sûr. C'est sûr que personne ne peut rêver face au destin de cette famille anéantie.
Cela dit, il y a des vrais points d'accroche pour le coup, ne serait-ce que la dimension tragique ici.
Bien sûr, oui. Mais là, la tragédie chez Médée est vraiment poussée à ses dernières limites.
On va en parler. Médée, oui. Blandine Le Callais, la Médée de Sénèque que vous avez entièrement retraduit et que vous proposez en édition bilingue chez Folio Théâtre. On y revient juste après un extrait de Back to Black sur votre conseil. La sublime Amy Winehouse, vous êtes sur France Culture, vous écoutez Le Carnet. Je vais tout renverser, tout détruire. Jason a eu peur de Créon et de la guerre que pourrait déclencher le roi de Thessalie. Un amour véritable est assez fort pour ne craindre personne. Mais admettons que sous la contrainte, il ait fini par céder et par rendre les armes. Nul doute qu'il aurait pu venir me trouver, moi son épouse, et m'accorder un dernier entretien. Mais de cela aussi, ce héros intrépide a eu peur. En tant que gendre du roi, il avait assurément le pouvoir d'obtenir un délai pour mon cruel exil. À nos deux enfants, on n'a accordé qu'un seul jour. Je ne me plains pas de cette brièveté. Elle suffira à m'offrir un large champ d'action. Quelque chose va s'accomplir aujourd'hui. Une chose que dans le monde entier, on ne cessera jamais de raconter. Je vais m'attaquer aux dieux. Je vais tout bouleverser. Une chose que dans le monde entier, on ne cessera de raconter, Blandine Le Callais, acte 2, scène 1 de la pièce de Sénèque que vous avez traduite, et c'est formidable quand même, cette Médée qui prévoit, qui écrit en quelque sorte sa propre légende. Là aussi, quelque part, le texte appelle sa réécriture, sa transmission, sa perpétuation.
Oui, c'est sûr que c'est très étrange dans la pièce de Sénèque, cette dimension réflexive du personnage qui a déjà conscience d'écrire sa propre légende, et même à la fin, elle monte sur le toit de la maison, en disant qu'elle veut qu'on la voit bien et qu'il faut que le peuple applaudisse le geste qu'elle va accomplir. Et donc, elle, en quelque sorte, elle détourne les applaudissements des spectateurs qui sont transformés en applaudissements d'approbation du crime de Médée. C'est quelque chose d'extrêmement pervers de la part de Sénèque.
C'est une mise en scène, véritablement. Cette traduction à laquelle vous avez ajouté d'ailleurs nombre d'indications scéniques de Didascalie, c'est une mise en scène de Médée pour vous?
Alors, rajouter des didascalies, c'est parce que le personnage de Médée est un personnage très incohérent, très fracassé. Et il y a des ruptures de ton constantes dans le texte. C'est-à-dire, elle s'adresse tantôt au ciel, tantôt elle se parle à elle-même, etc. Et il y a tellement de ruptures, il y a tellement d'allées et venues du personnage, de déplacements, que sans didascalie, le texte est très difficilement compréhensible. Il faut dire que c'est un texte de théâtre,
oui,
donc
c'est ça.
Il n'est pas fait
toujours
véritablement pour être lu, il est fait pour être montré. Et donc ce problème des ruptures de ton, des déplacements un peu bizarres, etc., on ne le rencontre pas lorsqu'on voit la pièce représentée. Mais je voulais qu'il y ait une forme de confort de lecture, donc j'ai pris l'initiative de rajouter des didascalies qui sont très indicatives et qui sont évidemment totalement... Enfin, on peut très bien imaginer d'autres mises en scène. C'était juste pour qu'il y ait une forme de confort de lecture et que le lecteur ne se sente pas totalement perdu en se disant « mais où elle est, à qui elle s'adresse ?»
Le fait que ce soit un texte, vous le disiez, toujours déjà incomplet puisqu'il ne se réalisera que dans sa mise en scène quelque part, est-ce que ça vous a rendu plus libre dans l'exercice de la traduction? On peut s'accorder du coup des libertés?
Non, moi je ne me suis pas accordé de liberté, je partais vraiment du principe, en plus on était parti sur le principe d'une édition bilingue, donc que la contrainte c'était une fidélité absolue, ce serait bien prétentieux de le dire, mais en tout cas une rigueur aussi grande que possible par rapport au texte latin. Donc je ne me suis pas accordé de liberté, ou les rares libertés que je me suis accordée, j'ai signalé en note chaque fois que la traduction était un peu éloignée du texte. Et chaque fois, c'était justifié par une espèce de difficulté.
Formelle ? Vous êtes imposé des contraintes de forme, justement, dans la traduction du vers latin ?
Un petit peu, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous le disiez, c'est un texte en vers. Il était pour moi hors de question de traduire en vers. Ça n'avait pas de sens, d'abord parce que le rythme du vers français par rapport au vers latin enfin, n'a pas de correspondance. Ensuite, parce qu'il y a un nombre, il y a beaucoup de vers, de rythmes différents dans la pièce de Sénèque qui mélangent des tas de vers. Donc ça n'avait pas de sens de mettre des alexandrins. Ça aurait été ridicule. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu une recherche formelle au niveau de la rythmique, des assonances, des effets sonores qui sont très nombreux dans le texte de Sénèque. Disons que, là encore, il faut beaucoup de modestie, parce que la notion de fidélité, ici, ne compte plus, d'autant que les pièces de théâtre, en plus, étaient accompagnées de musique. Donc, tous ces vers-là étaient chantés, parfois même dansés. Donc, c'est vrai qu'une traduction en français n'est que très, très éloignée De ce que pouvait être le texte d'origine.
Alors Médée, on le rappelle dans la mythologie et dans la pièce de Ripide, puis de Sénèque, c'est cette prêtresse magicienne à qui Jason doit tout, y compris la toison d'or, et qui se fait répudier sans ménagement pour la fille de Créon, pour des raisons politiques, mais quand même. En fait, au départ, c'est une histoire tristement banale, un drame domestique, Blandine Le Callant, tournait un petit peu autour de ça. C'est ce qui vous intéressait aussi, sa modernité en réalité?
Tout m'intéresse dans le personnage de Médée. Effectivement, sa modernité, mais aussi son côté totalement fou, transgressif et extraordinaire. Parce que c'est une folle absolue, parce que heureusement, ça n'arrive quand même pas si souvent qu'on tue ses enfants dans le cadre d'une séparation et qu'on mette le feu à la ville et qu'on assassine le roi et sa rivale. Donc j'aimais effectivement dans le personnage de Médée sa dimension profondément humaine, cette espèce de fragilité et en même temps l'espèce de monstre qu'en fait Sénèque, de personnage outrancier et extraordinaire.
C'est ce qui la rend légendaire précisément ? Cette outrance, cette surenchère.
Il y a beaucoup de choses qui rendent Médée légendaire et c'est difficile de résumer. Je pense que ce qu'il y a de plus extraordinaire chez elle, dans le cadre de la littérature antique, c'est que c'est vraiment c'est l'antithèse de la femme idéale, en quelque sorte. Elle est insoumise, elle revendique sa sexualité, elle est savante. Donc c'est ça, avant tout, qui la rend extraordinaire.
Nancy Houston.
Oui, elle est savante. J'ai le souvenir que l'étymologie de son nom, si vous me corrigerez, mais il me semble, était celle qui sait.
Ou celle qui soigne. En fait, bon, on n'est pas tout à fait sûr.
Il y a en tout cas l'idée savoir que ce soit un savoir de médecine, de sorcière, etc. C'est vrai qu'elle est admirée pour sa maîtrise du savoir. Et elle a effectivement tout sacrifié pour Jason au départ. Elle a renoncé à son propre pays. Elle est entrée en exil pour lui. Elle a renoncé à son père, à ses frères, etc. Quand il l'a trahie, ça c'est une chose, on peut dire c'est une jalousie légèrement excessive, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Lorsque il épousera la fille de Créon, en fait, ses fils à elle, ils seront quoi? Ils vont perdre leur statut de citoyen. Ils vont être quasiment réduits en esclavage.
Les choses sont différentes. En fait, Sénèque traite le personnage de façon différente de Euripide. Chez Euripide, les enfants sont chassés avec leur mère. Ils deviennent des déclassés. Et c'est pour leur éviter un destin de déclassés qu'elle les assassine. Chez Sénèque, les choses sont différentes. Jason veut les garder avec lui pour les intégrer à la famille royale, leur offrir un avenir. Et Médée leur refuse cet avenir-là. Sénèque en fait véritablement une folle absolue, la déshumanise par rapport à ce qu'avait fait Euripide. Et il y a cette volonté chez Sénèque d'outrance absolue et de déshumanisation du personnage.
Le problème, c'est que toute monstrueuse soit-elle, votre Médée, Blandine Le Callais et la Médée de Sénèque en l'occurrence, elle devient quand même séduisante pour le lecteur. Malgré le mal, on finit par la comprendre presque.
Par la comprendre, j'en suis pas... Enfin, à titre personnel, j'ai du mal à la comprendre.
Du moins, mais je finis par être séduit par elle.
Je comprends très bien ce que Sénèque a voulu en faire. Et Sénèque était parfaitement séduit par ce personnage. Il était en amour face à cette exultation dans la monstruosité. Et il lui a offert une mise en scène magistrale, effectivement.
C'est-à-dire que c'est une magicienne quand même. Mais je suppose aussi une magicienne du langage. Elle en sorcelle peut-être à coup de verre, de sortilège de papier.
Bien sûr, c'est une... Elle a compris le pouvoir des mots, le pouvoir performatif du langage, c'est-à-dire qu'à un moment dans la pièce, elle dit « il suffit que j'ouvre la bouche pour que la terre se mette à trembler ». Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le pouvoir ensorcelant, le pouvoir magique des mots et leur capacité à modifier le réel. Et je pense aussi que Sénèque a une sorte de sympathie pour le personnage parce qu'il se sent aussi relié à elle par ce pouvoir magique des mots.
J'ai l'impression que c'est une expérience que vous partagez, Blandine Le Callais, parce qu'il y a cette bande dessinée Médée, dont vous avez composé le scénario, dont le premier tome illustré par Nancy Peña a paru chez Casterman en 2013, où vous revenez vraiment sur l'enfance de Médée. On a l'impression que vous tentez sans cesse de la réhabiliter, somme toute.
De l'expliquer, c'est toujours très intéressant, la monstruosité, parce que pourquoi, comment on en arrive là, comment on devient un monstre. Et effectivement, dans cette bande dessinée, qui à l'origine était un projet romanesque, je me disais, mais comment on en arrive à l'âge de 16 ans à abandonner un statut princier, à s'enfuir avec un quasi-inconnu qu'on a rencontré 24 heures plus tôt, à tuer son père, assassiner son frère. J'ai dit, tuer son père, trahir son père. Et ce tome 1 de la bande dessinée, c'était inventer la vie de cette petite fille pour expliquer la violence de la femme future, mais aussi son goût de la liberté, sa curiosité intellectuelle, son énergie. Donc voilà, et alors ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que ce que racontait le tome 1, c'était vraiment le vrai mythe de Médée. Et je leur dis, mais pas du tout, tout est inventé en l'occurrence.
C'est à toutes les trois que je vais m'adresser maintenant, Blandine Le Callais, Julie Wolkenstein et Nancy Houston. Il nous reste quelques minutes avant de tourner cette page du Carnet d'Or. On va terminer comme on a commencé, avec des mots que je vous emprunte, des mots de Blandine Le Callais, justement, plutôt des mots de Sénèque, Blandine, que vous avez relu et traduit. Vous parliez tout à l'heure de paroles performatives chez Médée. Passe à l'acte, c'est le vers 906, pardon, page 183. Parce qu'ils sont évidemment numérotés, vos vers. Une exclamation donc performative de Médée qui me fait penser à un autre acte qui est celui d'écrire, de réécrire, et là en l'occurrence de traduire. Passe à l'acte. Il est difficile quand même ce passage à l'acte, Blandine Le Callais.
Non, la traduction, moi vraiment je l'ai pris comme un cadeau, parce que c'était un texte que j'aimais énormément, un personnage qui me fascinait depuis une dizaine d'années, donc cette traduction pour moi c'était un cadeau, même si ça a été 3 ans de travail, de réécriture incessante. C'était difficile, mais une difficulté pleine de bonheur, pleine de joie.
Et on sent d'ailleurs une certaine jubilation dans l'écriture. Elle vient aussi peut-être, dites-moi, de la subversion, de l'appropriation du texte de Sénèque.
Disons qu'il y a le bonheur d'être porté par un texte séculaire génial. Donc on se dit, quel cadeau. En quelque sorte, une partie du travail est faite. Et moi, je vais parachever ça. Mais effectivement, oui, il y a une sorte de parasitisme tout à fait jubilatoire.
Julie Wolkenstein, quelle expérience d'écriture, en réalité, puisqu'il s'agit quand même d'écriture, pour ce livre, Ethan Frome ? Une jubilation, une peur, une angoisse ?
Une jubilation. Et au fond, moi, je pense que ce n'est pas le passage à l'acte qui est difficile dans le cas de la traduction, mais c'est le fait d'arrêter. Parce que contrairement à un roman qu'on écrit soi-même, ou plus ou moins satisfait, en tout cas, il y a un moment... Voilà, on arrête le texte, une traduction, voilà, c'est sans fin. C'est-à-dire que, surtout sur ces textes-là, on pourrait la reprendre indéfiniment. On n'est jamais vraiment content de ce à quoi on a abouti. On se dit qu'on peut toujours faire mieux. Et la lâcher, c'est ça qui est le plus difficile.
Nancy Houston, vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de terreur respectueuse aussi quand on s'attaque à Virginia Woolf ?
Oui, c'est pas tellement une question de passage à l'acte, c'est une question de passage tout court. Et nous sommes des passeurs. Et vous aussi, vous êtes passeur ici dans cette émission. Et je crois que c'est ça qu'on sent autour de la table, c'est qu'on essaye de convaincre les gens. Il y a une véritable excitation quand on travaille avec des textes de génie comme ça, et quand on essaye d'en parler pour transmettre la beauté et l'importance humaine qu'on a trouvé nous-mêmes et qui nous a nourris quand on a travaillé sur ces textes.
Quelle belle façon de conclure cette émission. C'est ainsi qu'on va tourner cette page du Carnet d'Or. Merci à toutes les trois. Je rappelle les titres de vos traductions. La soirée de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, traduit donc par Nancy Houston aux éditions Les Allusifs. Ethan Frome d'Edith Wharton, traduit par Julie Wolkenstein chez POL. Et enfin Médée de Sénèque chez Folio Théâtre, relu et retraduit par Blandine Le Callais. C'était le Carnet d'Or que je vous invite bien sûr à réécouter et à podcaster sur le site de franceculture.fr, mais aussi grâce à Facebook et Twitter. Abonnez-vous, partagez, aimez. Merci Avril Ventura, Colomba Grossi, merci Isabelle Hill, Manuel pour la réalisation, à la technique aujourd'hui, Manuel Couturier. Je vous retrouve lundi à 14h55 en compagnie d'un libraire de Nevers qui s'appelle Wilfried Sejo, de la librairie Le Cyprès, qui nous conseillera plein de bonnes choses dans le carnet du libraire. Pas de carnet d'or samedi prochain, en revanche, pour cause de marathon des mots, mais on se retrouve le samedi d'après. D'ici là, tout de suite, maintenant, c'est Xavier Delaporte et sa place de la toile juste après le journal de la rédaction. Vous écoutez France Culture. Vive la littérature.